la distance entre ces points diminuant et tombant en dessous de toute longueur, si petite soit-elle. Il y a de la place pour rien, là. Vous avez votre série infinie, compacte et convergente de points rationnels. Ben, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et ben, voilà. Écoutez, regardez. Je vais vous faire surgir une place. Je construis sur ma droite, là, vous voyez, je construis un triangle rectangle isocèle. Droite 1, avec tous ces points rationnels marqués par des nombres fractionnaires, formant une série compacte, convergente, infinie, dont la limite est 1. Je construis mon rectangle, mon triangle rectangle isocèle. Et j'appelle x les côtés du rectangle. Je prends mon compas et cercle, je prends mon compas et j'y fais, comment dire, je marque le point où mon cercle rencontre la droite AB. Vous voyez, mon cercle a comme centre A et comme rayon le côté du triangle rectangle que j'ai construit sur la droite. Voilà. Regardez-le. Vous vous rappelez ce qu'on vient de voir avec le théorème de Pythagore, où j'ai 1 au carré égal 2x2, x au carré plus x au carré. On retrouve notre théorème de Pythagore. Ce point-là, c'est un nombre irrationnel. C'est quelque chose de formidable, mais d'incroyable. D'incroyable. Mon segment que je croyais compact, convergent, c'est-à-dire excluant toute lacune, voilà un point qui n'en fait pas partie. Il n'en fait pas partie, c'est un nombre irrationnel. Avec votre histoire, 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes, 5 sixièmes, etc., etc., etc. Et des quantités de plus en plus petites, qui tombait en dessous de toute longueur assignable, vous étiez en droit d'avoir constitué une série sans lacune. Voilà. Voilà une lacune. Comprenez? Il faut que vous passiez très vite en imagination, dans votre esprit, d'une figure à l'autre. Là, j'ai mon segment AB. Vous le prenez tout seul dans l'esprit. Vous le comblez entièrement. À l'infini. Avec votre série convergente à l'infini. Et vous vous dites, ouf, j'ai du continu. Si vous en restez là, en effet, vous ne pouvez pas voir. Je veux dire, voir par l'œil de l'esprit, on n'en est plus au sens. Votre œil de l'esprit, au sens où Spinoza dit, les démonstrations sont les yeux de l'âme, à votre œil de l'esprit, saisit une continuité parfaite. Vous construisez votre triangle rectangle sur le segment, vous prenez votre compas et vous faites surgir quoi ? Une lacune. Il y avait une lacune que votre œil de l'esprit ne pouvait pas voir. Je veux dire, là, ce n'est pas un problème de l'imperfection des sens. On est en plein dans un paradoxe fondamental qui est une imperfection de l'esprit comme tel. Il n'est pas apte à voir une lacune sur une ligne droite. Je veux dire, santé, ça devient passionnant. Enfin, ça, je ne sais pas pour moi. Cette ligne est pleine de trous. Cette ligne droite que vous avez tracée, elle est pleine de trous, non pas du tout en fonction des imperfections sensibles, parce que c'est une ligne tracée sans sensible. C'est en tant qu'intelligible que cette ligne droite, constituée comme série compacte et convergente, est en fait une ligne pleine de trous. Elle est remplie de lacunes. Et à chacune de ces lacunes correspond quoi ? Correspond à un nombre irrationnel. Qui en effet, un nombre qui n'est ni entier ni fractionnaire. C'est une merveille, vous savez. Vous vous sentez émerveillé de cette... Vous comprenez ? Encore une fois, il n'y a rien d'étonnant, j'insiste beaucoup là-dessus. Il n'y aurait absolument rien d'étonnant s'il s'agissait de la ligne droite sensible, mais pas du tout. Je parle de la ligne intelligible telle qu'elle est visée par l'esprit à travers le dessin sensible.
Mais là, tout change, en fait.
Quoi ?
Si tu dis, hein, c'est... Comment si cette ligne considérée comme une ligne de l'esprit et que celle-ci hein, sur le tableau n'est qu'une figure ou un prétexte pour montrer ce qui se passe hein, intérieurement, il me semble que le discours se change complètement.
Car à peine le discours n'aurait strictement aucun sens si je parlais de la ligne sensible. Si je vous disais je trace une ligne et au niveau du microscope vous verriez que cette ligne saute et que votre trait n'est pas réparti également, etc. Aucun intérêt. C'est dans la mesure où la ligne droite est susceptible d'une définition dite intelligible ou purement conceptuelle que les choses deviennent intéressantes. C'est-à-dire, si cette ligne définie purement conceptuellement est définie de quelle manière ? Par la série compacte et convergente qui semble donner un concept de continuité inattaquable. Et voilà que vous êtes capable de montrer que cette ligne constituée par une série compacte et convergente est pleine de lacunes, est pleine à la lettre de trop. C'est-à-dire de points qui ne sont pas rationnels, de points irrationnels. Mais ces points irrationnels, à ce second moment de mon histoire, vous ne pouvez les considérer que comme des lacunes. C'est des trous dans la continuité. D'où le coup de tonnerre, c'est que le compact et le convergent où la série des points, la série infinie des points rationnels, ne suffit pas à définir le continu. Ça va, il n'y a plus qu'un épisode alors. Donc, comment s'en tirer ? Il faut, tout ça, ça s'étale sur beaucoup de temps, de recherche, il y a eu 1000 manières de s'en tirer, plus ou moins bien. Mais enfin, la grande manière de s'en tirer, il faudra attendre la fin du 19e. La fin du 19e, il y a un grand mathématicien qui s'appelle Dedekind. D-E-D-E-K-I-N-D. Qui va relancer le problème du continu. Et son idée, elle est toute simple. Il se donne le schéma suivant. À savoir que tout point sous-entendu rationnel, ou tout nombre rationnel, peu importe, tout point ou tout nombre rationnel opère une coupure. C'est-à-dire le premier mérite fondamental. Vous voyez qu'il ne faut pas confondre toutes les notions. Tout à l'heure, je parlais de lacune. Là, je parle de tout à fait autre chose. Tout point rationnel opère une coupure. Sur une droite. Ou ce qui revient au même. Tout nombre rationnel, entier ou fractionnaire, constitue une coupure dans la suite infinie des nombres rationnels. Deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire une coupure ? Couper. La définition doit être très stricte, puisqu'il s'agit de mathématiques, c'est répartir un ensemble en deux classes, dont l'une sera à votre choix, au-dessous et l'autre au-dessus. L'une inférieure et l'autre supérieure. L'une avant, l'autre après, la coupure de toute façon répartira votre ensemble en deux classes. Par exemple, si je donne un segment vertical, je dis le point X comme coupure. Répartit l'ensemble AB en deux classes, dont l'une est au-dessus, l'autre en dessous. Troisième point, il faut bien suivre, hein, c'est pas difficile du tout. Hein. Dedekind, c'est très difficile, mais ce que je dis, c'est très très facile. Hein, Troisième point, tout point de la classe inférieure, dans ce cas celle d'en dessous, tout point de la classe inférieure, supposons, est en dessous ou inférieur à tout point de la classe supérieure. quatrième remarque, x, la coupure, fait partie de l'une ou l'autre des deux classes. Les deux classes, la classe A en dessous, la classe B au-dessus. Vous pouvez à votre choix décider que X fait partie de la classe A ou que X fait partie de la classe B.
Comment peut-on choisir en fait sur le copier,
hein? Tu choisis tour à tour, tu fais les deux choix, tu fais les deux choix successifs. Tout ce que tu peux dire, c'est que s'il appartient à X, s'il appartient à la classe A, il n'appartient pas à la classe B. Et inversement. Mais tu n'as aucune raison de choisir l'un plutôt que l'autre. Dernière remarque. Toute droite comporte une infinité de coupures. Ou, si vous préférez, la série des nombres rationnels comporte une infinité de coupures, chaque nombre rationnel étant une coupure. D'accord ? Pas de difficulté ? Alors c'est là que la merveille va surgir. À nouveau. On va de si vous voulez, de catastrophe en merveille, parce que Dedekind pose une question simple, et bien d'accord. Ma droite, là, vous vous rappelez, elle est pleine de lacunes. Les lacunes, c'est les nombres irrationnels. En d'autres termes, ma droite comporte une infinité de coupures. Vous voyez, mais c'est une astuce diabolique. Il est en train de définir le continu par la coupure. À partir de là, jamais plus les rapports, c'est-à-dire il fait la grande réconciliation du nombre et de la longueur. Mais à quel prix ? En changeant radicalement le concept de nombre. C'est ça un grand mathématicien. Alors là, je dirais presque, quelle différence il y a entre un mathématicien et un philosophe ? Je veux dire, si vous acceptez la définition que je vous ai toujours proposée de la philosophie, à savoir, c'est une discipline qui consiste à inventer les concepts. Là, je prends un exemple en mathématiques, de grande invention de concepts. À savoir, l'idée de définir le nombre par la coupure. Ça, c'est signé, c'est un concept autant que le cogito est signé Descartes. Définir le nombre par la coupure, ça n'avait jamais été fait. Jamais. Comment on définissait le nombre ? On définissait par unité et addition. Il fallait se donner les notions d'unité et d'addition pour engendrer le concept de nombre.
Il y a une lacune en vous. Je réfute le mot diabolique au profit du mot intellect. Excusez-moi.
Vous quoi ?
Je réfute le mot diabolique au profit du mot intellect.
D'accord.
Voilà, merci.
D'accord. Mais j'ai dit diabolique.
Oui, vous l'avez dit.
Oh mon Dieu. C'était un lapsus. Vous comprenez? On ne voit pas encore ce qu'il y a d'étonnant. Parce qu'il se trouve devant ce problème, donc. Il a son infinité de coupures. Toute droite comporte une infinité de coupures. Mais elle comporte aussi une infinité de lacunes. Les nombres irrationnels. Si tout nombre rationnel détermine dans la droite, sur la droite, si tout nombre rationnel détermine sur la droite une répartition telle qu'on vient de voir, une répartition en deux classes, d'accord ? Mais les lacunes, les nombres irrationnels, c'est pas des coupures, c'est des lacunes. Et le problème de Dedekind, ça va être comment donner à la lacune un statut de coupure. S'il réussit à donner à la lacune un statut de coupure, il a gagné, c'est-à-dire il a unifié. tous les nombres sous le concept de coupure. À ce moment-là, le genre du nombre, ce sera la coupure. Et si vous voulez, c'est à la fois, c'est arithmétiquement une espèce de révolution. Et comment il va faire ? Ben en effet, essayons sur son schéma, là, je reviens à ce schéma, de marquer une lacune. Il suffit que je prenne pour classe, par exemple, K5. Je prends pour classe les deux classes, puisque une coupure opère une répartition en deux classes. Là, je prends le cas le plus simple, le nombre 2. Et j'ai mes deux classes, 2 est considéré comme coupure, j'ai dès lors mes deux classes, tous les nombres plus petits que 2 et tous les nombres plus grands que 2. C'est une coupure. Tout va très bien. Supposons que je définisse mes deux classes maintenant de la manière suivante. Tous les nombres dont le carré est plus petit que 2. Et tous les nombres dont le carré est plus grand que 2. Racine de 2 est un nombre irrationnel. C'est une lacune. En même temps, il suffit que je dise ça, vous devez déjà sentir de quelle manière il est déjà en train de ramener la lacune à un cas particulier de coupure. Car vous vous rappelez la condition de la coupure rationnelle. C'est-à-dire coupure opérée, répartition opérée par un nombre entier ou fractionnaire. C'est que tout terme de la première classe doit être plus petit que tout terme de la seconde. Et le nombre qui marque la coupure doit être compris soit dans la classe inférieure, soit dans la classe supérieure. Deux fera partie d'une des deux classes. Si vous prenez deux comme coupure. Si deux à votre choix, purement conventionnel. Si 2 fait partie de la classe supérieure, vous direz que la classe supérieure a un début. En revanche, la classe inférieure n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin puisqu'elle converge à l'infini vers 2. Dans une série convergente. Inversement, si vous considérez 2, qu'est-ce que j'avais dit ? Oui, comme début. J'avais dit premier cas, vous le considérez comme début de la classe supérieure. Second cas, si vous le considérez comme fin de la classe inférieure a bien une fin, et la classe supérieure n'a pas de début. Bien. Supposez maintenant que vous disiez ceci. Admettons des coupures spéciales. Qu'est-ce qu'elles auront de spécial? C'est donc que dans toute coupure rationnelle, ou bien la classe inférieure à un maximum, ou bien la classe supérieure à un minimum. C'est ça qui définit une coupure rationnelle. 2 est une coupure rationnelle, puisque la classe inférieure a un maximum de lui-même, ou bien la classe supérieure a un minimum de lui-même. Eh bien, qu'est-ce que ce sera une coupure irrationnelle? Voilà. Un nombre irrationnel, il opère une répartition. Racine de 2 opère une répartition exactement comme les nombres rationnels. Racine de 2 opère une répartition sur la droite. C'est-à-dire une distribution de deux classes. Simplement, il ne fait partie ni de l'une ni de l'autre. Il ne fait partie ni de l'une ni de l'autre, si bien que ni l'une n'a de fin, ni l'autre n'a de début. En d'autres termes, il n'y a plus de lacunes. Il n'y a plus que des coupures, étant dit qu'il y a deux espèces de coupures. On appellera coupure rationnelle celle qui opère une répartition en deux séries, telle que l'une des séries est une fin, ou l'autre des séries un début. La coupure faisant partie d'une des deux séries. On appellera coupure irrationnelle une répartition telle que la coupure ne fait partie d'aucune des deux séries et que l'une des séries n'a pas plus de fin que l'autre série n'a de début. Et l'on dira uniquement le continu. C'est l'ensemble des coupures rationnelles et irrationnelles. Vous aurez défini la continuité même par la coupure. Dès lors, le nombre sera en effet réconcilié avec le continu. À quelles conditions? À condition de changer de concept. Le genre du nombre, c'est la coupure. Si le concept de nombre, c'est la coupure, la réconciliation se fait entre la continuité des longueurs et la discontinuité des nombres. Discontinuité qui n'était pas comblée par l'ensemble des nombres rationnels, puisque le nombre irrationnel vous imposait des lacunes. Rien à voir. Rien à voir avec les mathématiques. Je dis, ben vous savez, dans le cinéma ancien, enfin dit ancien, mettons, d'avant-guerre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des coupures. C'est même un terme cinématographique. Il y a des coupures entre deux images ou entre deux séries d'images. Ces coupures, elles ont plusieurs sortes, plusieurs allures. Elles peuvent être en fondu. Le fondu lui-même étant ou bien au noir ou bien enchaîné. Elles peuvent être en cut, montage cut, c'est-à-dire coupure optique, purement optique. combien elle peut être encore, elle peut appliquer un raffinement qui existe déjà dans le cinéma, que vous trouvez déjà chez Eisenstein, dans des cas splendides, des faux raccords. Bon, tout ce domaine. Je dis, c'est marrant cette histoire, parce que ce cinéma, qui connaît déjà tout, c'est une hypothèse comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, sans trop forcer l'analogie, il opère par coupure rationnelle. Prenez un fondu. Dans un fondu, vous avez une répartition. C'est bien une coupure. Puisque ça opère une répartition entre deux séries d'images. Et la coupure elle-même fait partie de l'une des deux séries. C'est typiquement une coupure rationnelle. Je dirais que, là je me sens moins sûr de moi, parce que j'ai peur qu'on puisse dire le contraire aussi. Mais ça n'a aucune importance. Je dirais que dans un fondu au noir, la première série n'a pas de fin, et que la seconde série a un début. Dans un fondu enchaîné, je dirais que la première série a une fin et la seconde série pas de début. Mais je suis pas sûr qu'on puisse pas dire le contraire aussi. Ça n'a aucune importance. Hein? Aucune importance. Mais ça a une certaine importance. Peut-être que deux points de vue, il faudrait dire les deux à la fois, je sais pas. Mais je me dis... Le cinéma avant la guerre, il procédait énormément par coupures, ces coupures étant des coupures de type rationnel. Quand même, faudrait, alors, réaction. Mais ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, c'est complètement arbitraire. Il mélange tout, il mélange les mathématiques, le cinéma. Alors, je me dis, ah ben non, ils exagèrent de penser ça. Ce n'est pas moi, c'est Eisenstein. Il y a dans Eisenstein des pages que tout le monde connaît, enfin que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui ne sont pas des pages pour faire malin. Où il explique que les images constitutives d'un film répondent à une loi de développement spiralique. Et il commente image par image le cuirassé Potemkin. Et je dis juste, on verra après le repos dont on a tant besoin. J'essaierai de préciser cette vision, mais il nous donne lui-même la formule à laquelle obéit le développement du film, à savoir des rapports commensurables, c'est-à-dire rationnel, OA sur OB, du type, c'est des rapports commensurables par nature. OA sur OB, dit-il, c'est sa formule qui rappelle tout le temps, égale OB sur OC. C'est le type même d'un rapport rationnel qui est censé déterminer et qui est censé renvoyer à la section d'or. La section d'or étant un point, le point qu'il appelle lui-même point césure ou point coupure. Il appelle point césure. Accordez-moi que je ne sais même pas si en russe il y a deux mots pour césure et coupure. Mais c'est pareil. Bien. Donc, je ne suis pas en train de plaquer un problème sur un autre. J'entends bien que il ne s'agit pas de développer mathématiquement à propos du cinéma, etc. Mais c'est une curieuse rencontre. Vous me direz alors, mais ce cinéma connaît déjà le faux raccord. Oui, il connaît déjà le montage cut. Oui, la coupure optique. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est ? Des lacunes. Des lacunes volontaires. Des lacunes volontaires qui doivent avoir un effet affectif. Depuis le début, on est en train de chercher un peu ce qu'on pourrait appeler les caractères nouveaux du cinéma d'après-guerre. Je crois que, entre autres, et je réinvoque par exemple, qu'est-ce que c'est que la nouveauté de Bresson à cet égard ? Qu'est-ce que c'est que la nouveauté de la nouvelle vague à cet égard ? Bon. C'est l'arrivée dans l'image cinématographique d'un tout nouveau type de coupe. La coupure gardant toujours sa définition, opérer une répartition entre deux séries d'images. Seulement voilà, je dirais en très gros, c'est pour ça qu'il me fallait ce long développement mathématique, je dirais en très gros, le cinéma moderne opère ou invente une toute nouvelle conception de la coupure, il procède pas toujours, mais il procède avec des coupures irrationnelles. C'est-à-dire, avec le critère qu'on a pris à Dedekind de la coupure irrationnelle, la coupure ne fait plus partie. C'est pas comme dans le fondu, au noir ou enchaîné, la coupure ne fait plus partie d'aucune des deux séries. Qu'elle répartit. Ça peut être imperceptible. C'est-à-dire, le faux raccord prend une dimension absolument nouvelle. Il était déjà là avant. Mais avant, ça n'était qu'une lacune. Maintenant, il change de statut. Le faux raccord se met à valoir pour lui-même. Il n'est plus une lacune dans la série des images. Il est une coupure irrationnelle entre deux séries d'images. Et à ce titre, ne fait partie ni de l'une ni de l'autre. Vous me direz, c'est pas un grand bouleversement, complètement. Si tous les problèmes de rythme sont... C'est exactement, si vous faites la comparaison, c'est exactement la découverte des nombres irrationnels. Les coupures sont des équivalents de nombres irrationnels. Alors que, à mon avis, le montage de l'ancien cinéma, du cinéma d'avant-guerre, était un montage, toujours conçu d'après des rapports de commensurabilité. Chez Eisenstein, qui est un des plus grands théoriciens du montage avant la guerre, chez Eisenstein, ça me paraît évident la présence des rapports de commensurabilité comme condition du montage même et de ce qu'il appelle l'harmonie dans le montage. Tandis que là, vous allez avoir, je prévois l'avenir, je dis, et si je me suis servi d'un long parallèle avec les mathématiques, pourquoi qu'on ne servirait pas un jour lointain, plus lointain, d'un parallèle avec la musique ? On est où là aussi, tout ce que je viens de dire sur les notions de coupure, de série. C'est pas que ça ressemble et que ça s'applique, mais est-ce que ça n'aurait pas des équivalents musicaux aussi ? Mais là, je suis pour le moment en train de chercher juste au niveau des images visuelles. Et je dis, c'est forcé que le faux raccord ait pris un sens complètement autre. Le faux raccord dans le cinéma moderne, et là encore, le grand précurseur, c'est Bresson. Ça n'est plus une lacune. C'est une coupure irrationnelle. Et à ce titre, le faux raccord se met à valoir pour lui-même. C'est une coupure irrationnelle parfaitement positive en elle-même. Le faux raccord a pris son maximum de positivité. Si petit soit-il, c'est-à-dire si rapide soit-il, si petite soit la durée de temps qu'il occupe, mais supposé qu'il s'étale, qu'il s'élargisse. S'il s'étale, s'il s'élargit, on a déjà vu le cas, ça donne l'écran blanc ou l'écran noir. L'écran blanc et l'écran noir sera la présentation d'une coupure irrationnelle en elle-même et réagira sur l'ensemble des images. Elle opérera une répartition entre deux séries, mais n'appartiendra à aucune des deux séries. Et les images seront en perpétuelle relation avec les coupures irrationnelles qui les traversent. Et l'écran blanc ou l'écran noir, ce sera l'exposition de la coupure irrationnelle pour elle-même. On a vu l'importance notamment que prenait l'écran blanc ou l'écran noir. Comme disait Birch dans le texte que j'invoquais une fois, là, récemment, l'écran blanc et l'écran noir pouvaient apparaître avant, il avait une valeur avant tout de ponctuation. C'est exactement ce que je viens de dire. Le faux raccord, c'est l'équivalent. Le faux raccord apparaissait avant, il avait une valeur de lacune. C'est, les termes diffèrent, ça revient au même. Birch dit, bon, on sent bien qu'il y a un certain moment où, avec le cinéma expérimental, pas avec la naissance, il y a toujours eu un cinéma expérimental, mais un certain moment dans le cinéma expérimental, par exemple, où l'écran blanc ou noir se met à valoir pour lui-même, c'est-à-dire prend ce qu'il appelle une valeur structurale. Bon. Mais je dirais que ça n'est possible que lorsque l'écran blanc ou noir vaut comme présentation de la coupure irrationnelle. Alors, il faudra voir ça de près dans le cinéma expérimental, qui a donné un rôle, en effet, à l'écran blanc, à l'écran noir, très très important, comme même susceptible de variation, blanc sur blanc, etc., et à traverser des aventures analogues ou équivalentes à celles de la peinture. Bon, mais je citais parmi les auteurs modernes, je citais Garel, comme donnant une importance particulière, cette fois-ci, à l'écran blanc ou noir, parce que c'est même plus une importance structurale, c'est une importance, je disais, génétique. Avec lui, l'écran blanc ou noir là, prend une valeur génétique par rapport à l'image, et pas simplement une valeur structurale. Or, là, je dirais exactement la même chose, c'est un cinéma fondé sur les coupures irrationnelles. La coupure irrationnelle aurait comme deux figures le faux raccord à la limite de la perceptibilité et l'écran blanc, l'écran noir et leurs dérivés, je veux dire l'écran bleuté, l'écran neigeux, l'écran surexposé, l'écran sous-exposé, tout ce qu'on a un tout petit peu vu précédemment. Ah, c'est un cinéma. C'est en sens un type de cinéma nouveau. Alors, qu'est-ce que je viens de confirmer dans tout ça? Je viens de confirmer uniquement le thème suivant. Vous comprenez, on pourrait même aller plus loin. Je disais, la mutation de la pensée que j'ai cherchée là, chez Blanchot, chez Foucault. Elle avait deux grands caractères. C'était la pensée du dehors, c'était une pensée qui se réclamait de cette instance mystérieuse, le dehors, dont on a vu que ce n'était pas le monde extérieur, que le dehors, c'était bien au-delà du monde extérieur. Je disais, c'est une pensée du dehors qui se révèle dans la pensée comme l'interstice. L'interstice se met à valoir pour lui-même. Je dirais que l'image cinématographique, non pas vérifie, mais invente pour son compte une mutation complètement analogue, dans la mesure où le faux raccord dans le cinéma moderne est devenu une coupure irrationnelle, c'est ça l'interstice, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus partie ni de l'une ni de l'autre. Le faux raccord ne fait plus partie ni de l'une ni de l'autre des deux séries d'images qui le séparent. En sens, c'est une coupure irrationnelle. Donc, interstice, deuxième notion, présentation de l'interstice élargie, l'écran blanc ou l'écran noir, que j'appellerais la présentation du dehors de l'image. la présentation du dehors ou d'un dehors de l'image ou d'un envers de l'image. Si bien que les deux caractères fondamentaux que nous avons trouvés au niveau de l'image de la pensée, le dehors et l'interstice, le dehors se présentant dans l'interstice, trouvent leur correspondant dans l'image cinématographique. Le fond raccord et l'interstice, son développement dans l'écran noir ou l'écran blanc, et la corrélation de l'écran noir ou blanc avec le fond raccord conçu comme interstice, c'est-à-dire comme coupure irrationnelle. Si c'était comme ça, ça irait tout à fait. Bon. Vous voulez un peu de repos ? Hein, on se repose. Hein. Vous réfléchissez à ça, et puis vous me dites, ah non, pardon, avant qu'on se repose. Oui, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, il y a un film qui est intéressant par rapport à ce que vous dites. C'est un film de Hans Richter qui s'appelle Rhythm of the Earth, qui était dans les années 30.
Oui.
Qui effectivement est composé uniquement de blanc et de noir. Et par exemple, le film, les images du film sont géniales. Il y a, par exemple, une partie, un cadre complètement blanc, c'est-à-dire le statut d'avant-garde. L'image est complètement blanche, et puis on voit une forme qui apparaît, c'est-à-dire un point. Un endroit particulier de l'image, un point noir qui s'agrandit, une forme apparaît, et en fait cette partie noire vient remplir tous les points. C'est-à-dire que c'est ce point qui devient ensuite l'écran de l'image.
Ouais.
Bon, alors là il y a un nouveau un écran, et puis dans cet écran noir, il y a de nouveau, un point qui apparaît. Et puis ce point lui-même va devenir l'écran.
Cette fois-ci, un point blanc, alors.
Un point blanc, et puis dans ce point blanc, d'autres points vont apparaître, et ça c'est une suite.
C'est ça, c'est ça. Mais alors, je ne sais pas ce que tu en tires. Pour moi, ça fait partie, une fois dit que ça fait partie de la grande tradition du cinéma abstrait. Pour moi, c'est l'ancien régime du cinéma abstrait.
C'est un régime de la culture assez... Effectivement, je ne sais pas si c'est une coupure rationnelle ou irrationnelle, c'est une coupure très bizarre en tous les cas. C'est une coupure qui. À la limite, on peut dire qu'il y a un. Enfin, je veux dire, selon les critères classiques, on pourrait dire qu'il y a un seul plan de droite du film. Il y a une seule image, je ne sais pas.
Il y a alternance entre deux séries, mais ça, on le verra. Moi, je voudrais beaucoup essayer de faire une périodicité du cinéma abstrait, où là, j'aurais besoin de toi. Et on verra. Parce que pour moi, je dirais très vite que dans le cinéma expérimental, les vraies coupures ou les vrais équivalents de coupures irrationnelles n'ont paru qu'à partir des méthodes de clignotement. Il me semble qu'il y aurait une grande différence au niveau de... comment il s'appelle ? C'est McLaren. C'est ça, hein ? C'est au niveau de McLaren qu'on passe à des coupures vraiment irrationnelles. Mais enfin, il faudrait qu'on en parle. Mais enfin, on le verra. Bon. Je vais finir ce point avant que vous parliez. Je dis, si on essayait donc de mieux fixer le caractère d'une différence possible avant-guerre, après-guerre, du point de vue, cette fois-ci, donc, du défilé des images cinématographiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire quelque chose comme ceci ? Je dis quelque chose comme ceci parce que, évidemment, faut tellement le nuancer, encore une fois. C'est pas le cinéma après la guerre qui invente le faux raccord, tout ça. Non, il s'agit donc de quelque chose de plus compliqué. Mais je reviens à l'exemple d'Eisenstein. Je vous renvoie au texte classique, au grand texte, la non-indifférente nature. et au commentaire très détaillé que Eisenstein donne du cuirassé Potemkin. Tout ça, c'est des pages célèbres. Bon. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois l'idée que, donc, les images se développent suivant une spirale. Et que cette spirale, une spirale logarithmique, spirale ouverte, et je lis, j'en ai assez de faire des dessins, vous voyez, il faut vous donner un axe. Je sais pas. Non, et puis une spirale, c'est difficile à faire. Vous voyez un petit peu, vous vous donnez un axe là comme ça, puis vous faites votre spirale à partir d'un point. Enfin bref, vous vous reporterez. Le 10-18, page 59, c'est le grand chapitre, l'organique et le pathétique. Je lis page 59. Les spirales logarithmiques sont diverses, mais toutes ont en commun une particularité. Les vecteurs successifs disposés sur le dessin, comme OA, O étant le point d'origine de la spirale, A étant la coupure avec l'axe, B aussi, C aussi, les vecteurs successifs disposés sur le dessin, comme OA, OB, OC, OD, forment une progression géométrique. C'est-à-dire que dans une spirale logarithmique, on sera toujours en présence de la série OA sur OB égale OB sur OC égale OC sur OD, etc. égale petit m. Là, on a l'impression que Eisenstein, il en rajoute, évidemment. Puis on se dit, non. Je veux dire, il n'a pas appliqué tout ça. Mais c'est vrai que la manière dont il conçoit un film... Il le montre très bien pour le cuirassé. Elle est faite comme ceci. Il lui faut un point césure. Il lui faut le développement spiralique et un point césure, c'est-à-dire une coupure. Son problème, c'est choisir la coupure. Lui-même dit, il y a une grande coupure dans le cuirassé Potemkin. Et la coupure, c'est le passage des os à la terre avec la mort, où l'on passe du cuirassé au deuil à terre. Pour lui, c'est ça la grande coupure, avec passage des os à la terre. En effet, la coupure est multiple, elle concerne les éléments, elle concerne le dynamisme, elle concerne la matière, elle concerne la forme, enfin, bon. Donc, vous avez un développement spiralique et une césure. Ensuite, il montrera que chaque vecteur de la spirale, c'est-à-dire les différentes parties, ont elles-mêmes des coupures. Et comme il dit, la coupure, elle ne doit pas être à la moitié. Ça fait des symétries extrêmement lassantes. Mais elles sont au fameux point, c'est un point, au point de la section d'or. Pas le temps de reprendre tout ça, vous verrez, ça fait partie des grandes pages de l'organique et le pathétique. Donc, voyez, trois notions très fondamentales, la spirale, la détermination d'une grande coupure césure, et les différentes parties d'un côté de la série, donc qui fait deux grandes séries, et dans la série première, dans la série antécédente, tout comme dans la série suivante, à nouveau, des sous-césures, des sous-coupures. Or, la loi du type O sur A égale O sur B, OA sur OB égale OB sur OC, etc., etc. C'est-à-dire, la plus petite partie doit être à la moyenne ce que la moyenne est au tout, m'apparaît une excellente définition du rapport commensurable. Et de la même manière, je dirais, les points césures les sections d'or sont d'excellentes présentations de ce qu'on appelle vraiment en mathématiques, là puisqu'il invoque les mathématiques, de ce qu'on appelle en mathématiques des coupures rationnelles. Alors, je dirais à mon avis, pour faire le lien avec tout ce qu'on faisait l'année dernière, que un cinéma qui distribue les séries d'images suivant des rapports commensurables et des points rationnels, c'est exactement un cinéma. De l'image-mouvement qui nous donne une représentation indirecte du temps. Non, je ne veux pas le développer puisque ce n'est plus notre sujet, mais c'est presque pour faire le trait d'union avec tout ce qu'on faisait l'année dernière. Et encore une fois, Eisenstein pourra notamment dans Ivan le Terrible arriver à une technique du faux raccord, par exemple dans la scène des popes, dans une scène célèbre des popes, où il y a des faux raccords merveilleux. Pour arriver à une technique des faux raccords telle que on dira, mais c'est déjà complètement là. Ça n'empêche pas que ça n'a pas la même fonction. Que les faux raccords, là, jouent vraiment le rôle de lacune. C'est-à-dire, ce sont des lacunes que doit franchir le défilé des images en sautant par-dessus. Tandis que si j'essaie de définir le cinéma moderne, je dirais ben, en un sens rien n'a changé, en un autre sens tout a changé. Pourquoi ? Parce que là, tout se passe comme si les lacunes n'étaient plus subordonnées à l'enchaînement des images. C'est l'inverse. C'est l'enchaînement des images qui est subordonné aux lacunes, si bien qu'il ne subsiste d'enchaînement que ce que les lacunes permettent. Ou ce qui revient au même. Je dirais, c'est un cinéma où il n'y a plus de lacunes à proprement parler, il y a des coupures irrationnelles. Notamment, il y a un contresens, je veux dire, je ne sais pas le russe, mais... C'est évident qu'il y a un contresens dans la traduction, parce que le traducteur, il ne s'est pas assez occupé de mathématiques. Je signale ces pages, ça m'a paru très surprenant. Ces pages, il y a un contresens très choquant, parce que, oui, page 65. Exprimé par des nombres entiers, vous trouvez en plein là tout ce qu'on vient de raconter sur les nombres rationnels. Exprimé par des nombres entiers, dit Eisenstein, la proportion des distances du point de la section d'or aux extrémités du segment se concrétise par des approximations successives de la série suivante. 2 tiers, 3 cinquièmes, 5 huitièmes, 8 treizièmes, 13 vingt-et-unièmes, et ainsi de suite. Ou, par la fraction incommensurable 0,618, pour le plus grand segment, en comptant le tout pour l'unité, ce qui est la formule même de la section d'or. Il est évident que la fraction incommensurable est un non-sens. Pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas de fraction incommensurable. L'incommensurable, le rapport incommensurable s'exprime dans un nombre irrationnel, c'est-à-dire non fractionnaire. Il n'y a pas de non fractionnaire. En revanche, le mot qui convient au niveau de la fraction, c'est fraction irréductible. 2/3, par exemple, est une fraction irréductible, puisque elle ne peut s'exprimer ni dans un nombre entier, ni dans un nombre avec virgule fini. Il s'agit donc de fractions irréductibles, du type 2/3. Mais parler d'une fraction incommensurable est un contresens, pas gênant pour la compréhension de la page, mais gênant pour le français de la traduction. Alors, je dis lorsque les lacunes, c'est la même chose, hein, lorsque les lacunes se subordonnent l'association, lorsque les lacunes se subordonnent l'enchaînement des images, c'est-à-dire lorsque ne subsiste de l'enchaînement que ce que la lacune permet, à ce moment-là, la lacune n'est plus une lacune. Elle a cessé d'être une lacune et elle est devenue une coupure irrationnelle, qui vaut pour elle-même, et c'est précisément parce qu'elle vaut pour elle-même, sous la forme développée de l'écran noir ou de l'écran blanc, qu'elle se subordonne les associations, les enchaînements d'images. On est sorti des enchaînements. Il ne subsistera des enchaînements que ce que les coupures permettent. Pour ça, je disais, au hasard Balthazar me paraît le film génial, le grand film à cet égard. Les rares, les enchaînements locaux. Il n'y a plus que des enchaînements très locaux. Des enchaînements très locaux distribués, répartis par la coupure irrationnelle, par le jeu des coupures irrationnelles. Et là-dessus, que ces coupures irrationnelles s'élargissent et valent pour elles-mêmes, prenant une valeur structurale ou une valeur génétique sous forme d'une valeur propre de l'écran blanc ou de l'écran noir, c'est évident, ça va de soi. Et en effet, je vais juste terminer là, ce point en disant, bah oui, les deux sont également intéressants. L'usage imperceptible de la coupure irrationnelle, c'est-à-dire le faux raccord rapide, ou l'usage à perception grossie sous forme de l'écran noir ou de l'écran blanc, sont complètement, et puis toutes les transitions entre les deux, sont complètement complémentaires, même si ce n'est pas les mêmes auteurs qui affectionnent l'un ou l'autre. Prenez la méthode Godard. La méthode Godard, il me semble, dans beaucoup de films, on aura l'occasion de revenir là-dessus, encore une fois, c'est qu'un programme qu'on est en train de faire. La méthode Godard, elle consiste à, je disais, briser l'enchaînement des images. Ça consiste à dire, à la manière dans le style Godard, vous comprenez, vous êtes spectateur, vous êtes à la chaîne, parce que les images elles-mêmes s'enchaînent. Et tant que les images s'enchaînent, vous êtes à la chaîne. Donc on est tous, on fait du travail à la chaîne. Le cinéma se fait à la chaîne, le spectateur est à la chaîne. Bon, vous voyez les développements brillants de Godard là-dessus. On est tous des SO, on est tous... le cinéma, c'est du boulot, etc. Très bien. Et il annonce, notamment dans Ici et ailleurs, il annonce un désenchaînement qui sera à la fois une libération du spectateur et une libération de l'image.